Salut Raphaël.
Salut Patrick.
Donc deux sujets économiques aujourd'hui. D'abord, oui. On sait qu'aux États-Unis, là, les milieux progressistes poussent pour un salaire minimum à 15 $ depuis des années. Ben là, il y a un débat qui fait rage autour de ça.
Et on va peut-être l'avoir. On va peut-être l'avoir, et ce, à relativement court terme. Il faut réaliser qu'aux États-Unis, on part de très, très loin au niveau fédéral. On a un salaire minimum de 7,25 et il n'a pas bougé depuis très longtemps, depuis à peu près 20 ans.
Et là, attends une minute. Depuis 20 ans, c'est le même salaire minimum.
Au niveau fédéral. Mais attention, il faut faire attention parce que c'est un petit peu trompeur. Parce que oui, il y a un salaire minimum fédéral, mais aussi une trentaine d'États qui ont leur propre salaire minimum. Et dans la plupart des cas, c'est quand même plus élevé. Donc, par exemple, en Californie, c'est à 14 $ de l'heure. Ce qui fait monter ce qu'on appelle le taux effectif national à environ 12 $ de l'heure. Mais il reste que tu as plusieurs États où c'est encore à 7,25 et tu as plusieurs États où, parce que tu n'as pas un taux d'État, si le gouvernement fédéral bouge pas, ça bouge pas non plus, parce que c'est à zéro. Fait que, écoute, passer de 7,25 à 15 $ de l'heure en à peine 4 ans, parce qu'on voudrait faire ça graduellement jusqu'à 2025, d'ici 2025, c'est extrêmement ambitieux, et ça pourrait, je te dis, bien, ça pourrait faire partie de l'énorme plan d'aide économique là qui serait passé, on s'attend, là dans les prochains jours, prochaines semaines, par le Congrès, signé éventuellement par le nouveau président, M. Biden. Ce qui est fascinant, c'est que, évidemment, c'est une espèce de débat éternel chez les économistes aux États-Unis, à savoir, c'est quoi l'impact net? Est-ce que ça fait plus de bien, plus de mal? Parce que, par exemple, pour te citer la dernière étude du bureau budgétaire du Congrès, d'un point de vue, si on veut, ça aiderait à sortir à peu près 1 million de personnes de la pauvreté. D'un autre point de vue, ça mènerait à peu près la perte estimée, là, on s'entend, 1,5 million d'emplois. Fait que, surtout les petites entreprises qui ont de la misère ou qui auraient de la misère à accoter une telle hausse, ça pourrait peut-être créer des pertes d'emplois, mais en même temps, tu as beaucoup de gens qui tirent le diable par la queue c'est ça aux États-Unis, qui pourraient voir à la fois leur situation personnelle et celle de leur ménage et leur famille s'améliorer quand même de façon appréciable. Donc, il y a un débat au niveau économique, mais au niveau politique, il n'y a plus vraiment de débat à savoir que c'est un enjeu qui est drôlement gagnant pour les démocrates. Parce que ce sont souvent les démocrates, tu mentionnais le mouvement progressiste aux États-Unis qui est derrière ça, ce sont les démocrates qui se battent pour ça depuis des années. Et là, écoute, c'est tellement rendu une espèce de fait accompli qu'on va le rehausser de façon appréciable, tôt ou tard, le salaire minimum aux États-Unis, que c'est rendu que tu as des sénateurs républicains qui essayent de faire des contre-offres proactivement en disant « OK, on va le hausser, mais peut-être pas à 15 $ tout de suite, disons à 11 $ Quand tu commences à transiger comme ça, c'est parce que tu sais que tu es du côté perdant du débat au niveau de l'opinion publique. Puis, je regardais ça hier, c'est fascinant. Toi et moi, on s'est parlé à quelques reprises de ce qu'on appelle les référendums d'initiative populaire, dans certains États, les électeurs sont appelés à trancher directement là, sur des référendums. Donc, écoute, en remontant 25 ans en arrière, jusqu'au milieu des années 90, dans tous les référendums, sans exception, qui ont été tenus auprès des électeurs, à savoir, est-ce qu'on devrait rehausser le salaire minimum dans un État ou dans un autre, dans tous les cas, ça a passé, la plupart du temps, avec environ 60, même souvent plus de 60% du vote. C'est un enjeu gagnant au niveau de la population. Et là, c'est en train percoler au niveau corporatif. Là, tu as des géants corporatifs américains qui sont en train de voir justement cette espèce de vague-là se dresser devant eux, qui se disent... On va essayer de faire un coup de relations publiques. Donc, avant même qu'on se fasse forcer la main par le gouvernement fédéral, nous, on va sortir sur la place publique, jouer aux gentils citoyens corporatifs et dire que on n'a pas besoin de se faire ordonner pour améliorer la situation de nos travailleurs. Donc, la semaine dernière, tu as eu Walmart qui a annoncé que le salaire moyen de ses employés allait franchir 15 $ Et Costco, pas plus tard que ce matin, a annoncé que non, eux, ça serait pas 15, ça serait 16 $ le salaire minimum.
Mais Raphaël, Costco, faut le dire, là, ils ont des politiques salariales puis des conditions de travail qui sont saluées depuis très longtemps.
Absolument. Fait qu'on s'entend que Walmart et Costco partent pas de la même place à la base. Ça, t'as absolument raison. Ou par contre, ils se rejoignent, c'est que les deux clairement veulent se faire aussi du capital. Littéralement, du capital de sympathie publique et donc aussi du capital littéralement avec ce dossier-là.
OK, parle-moi maintenant des effets de la déréglementation du secteur de l'énergie au Texas. Tu sais, au Québec, des fois, on peste contre Hydro-Québec, mais au Texas, pendant la crise, là, pendant le gros problème de tempête de neige la semaine passée, là, il y a des gens qui ont eu beaucoup de surprises en recevant leur facture d'électricité.
Et pas des très belles surprises. Tu sais, le vieil adage selon lequel on se console en se comparant, considère ceci. Il y a une nouvelle étude qui est sortie, et ça, c'est fascinant en soi. C'était sorti par le Wall Street Journal, qui n'est pas tout à fait, là, on s'entend, un journal progressiste militant. Là. Et cette étude-là, donc publiée, montrait que en remontant 20 ans en arrière, c'est-à-dire à partir du moment où le Texas a déréglementé son secteur énergétique, c'est environ 30 milliards de dollars en plus qui a été chargé aux consommateurs de l'État comparativement aux autres États américains où le secteur énergétique n'avait pas été déréglementé de la sorte. Et là, ce matin, on a appris qu'il y avait un recours collectif qui avait été lancé au Texas contre un des fournisseurs, parce qu'encore une fois, c'est un secteur privé, là, un marché privé, pardon. Donc, un des fournisseurs d'électricité, un recours $1 milliard par une consommatrice qui a reçu, tu parlais de facture d'électricité un petit peu salée, là, elle a reçu une facture pour la période allant du 1er au 19 février. Ça, c'est pas un mois, là. Tu savoir combien? 9 500 $. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que à la base, la compagnie, parce qu'il y avait un joueur au Texas comme en Californie qui a eu sa propre crise énergétique il y a 20 ans, qui a poussé pour la déréglementation, tu vas sûrement te rappeler la compagnie en question, un certain géant nommé Enron. Mm. Évidemment, au cœur d'un des pires scandales financiers du dernier siècle carrément. Et je te laisse avec ceci. Qu'est-ce que Enron avait fait grâce à la déréglementation du secteur énergétique en Californie? La compagnie s'accaparait d'une taille importante du marché énergétique de l'État. Une fois que c'était fait, elle exportait au maximum l'énergie de la Californie à d'autres États américains et en même temps, elle faisait des fermetures artificielles de centrales électriques. Qu'est-ce que tu penses que ça faisait?
Ça faisait monter le coût de l'électricité.
Évidemment, parce que ça créait un manque en approvisionnement épouvantable, donc plus demande. Le prix augmentait en flèche. Et à ce moment-là, Enron revenait en Californie pour revendre l'énergie aux Californiens. Fait que, t'as raison, on peut pester contre le monopole d'Hydro-Québec, mais disons, de l'autre côté, il peut y avoir des désavantages. Là, on en a vu il y a 20 ans en Californie, on en voit présentement au Texas.
À demain, Raphaël, merci.
À demain.
OK, c'est une grosse soirée pour le nouveau coach du Canadien, Dominique Ducharme, qui fait ses débuts comme entraîneur-chef à Winnipeg. On va en parler tout de suite avec Mario Langlois après la pause.